Me kesepastil. Oh, me kesepas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 13 janvier 2026. Aujourd'hui, on va pas mal parler aménagement du territoire avec des nouvelles de la 69, aussi du contournement ouest de Montpellier et de leurs déboires juridiques. Et puisqu'on est justement au bord des routes, on va parler aussi du sort plutôt triste qui est réservé aux gens du voyage, notamment sur la question des aires d'accueil, et ce particulièrement dans le département de l'Hérault, avec un article, une enquête de Street Press qui s'est intéressée à cette situation. Puisqu'on parle Street Press, on parlera aussi Presse Libre avec des nouvelles du procès du journal L'Empaillé. Et on s'intéressera aussi à l'impact des réseaux sociaux sur les adolescents avec une nouvelle étude de l'ANSES qui vient d'être publiée. Dans l'affaire de l'autoroute 69, c'est donc un camouflet pour les préfets et pour Atosca. Le mandataire, donc l'entreprise chargée de réaliser ces travaux. C'est ce que félicitent en tout cas les opposants à travers l'association La Voie est libre suite à la suspension du chantier sur ce qu'on appelle les emprises illégales. Je vais vous expliquer de quoi il est question si ça ne vous parle pas. En tout cas, ils se réjouissent qu'enfin des contrôles et des sanctions soient prises. Le chantier avait été bloqué une première fois par la justice administrative, puis finalement relancé en appel. Le chantier est à nouveau donc suspendu sur 46 de ces sites, c'est ce qu'a annoncé le parquet de Toulouse. Le juge pénal a en effet donc ordonné l'arrêt des travaux sur les parcelles qui ne font pas partie de l'emprise initiale, donc le plan prévu sur lequel les travaux devaient se dérouler et qui avait donc largement débordé. Cette emprise est déclarée du chantier est donc illégale et le juge ordonne la libération de toute occupation de ces parcelles sous les 4 jours. Donc dégager tous les engins et autres constructions pour le chantier. Des mesures compensatoires sont d'ailleurs prévues à exécuter dans un délai de 30 jours, avec une astreinte de 20 000 euros par jour. Ce référé concerne environ 51 hectares. Ça fait pas mal. Ça fait combien, ils ont dit j'avais trouvé l'équivalent en terrain de foot, mais bon, c'est pas très grave. 51 hectares environ concernés. Ça, ce sont les opposants qui ont donné ce chiffre. 30 selon le ministère public, qui a vu un petit peu les choses à la baisse. Ces parcelles, en tout cas, donc je vous le disais, ça concerne 46 endroits, 46 sites le long des 53 km de ce tracé d'autoroute entre Castres et Verfeuille. Une autoroute pas très longue, mais qui fait par contre couler beaucoup d'encre. Atosca, le constructeur, va donc devoir respecter strictement les limites de l'emprise qui lui avait été concédée au chantier, ce qui fait là à peu près 380 hectares. Ça, c'est ce qui a été écrit dans la déclaration d'utilité publique et donc les autorisations environnementales qui ont elles-mêmes été très problématiques. Le communiqué de La Voie est libre face à cette décision du juge. Après 2 ans d'inaction complice face à un nombre d'infractions records, les préfectures se voient retirer le contrôle du chantier. Celui-ci est suspendu sur 46 zones hors emprise. C'est désormais le procureur qui sera en charge de faire respecter le droit de l'environnement en donnant tous les moyens d'agir à ses services. Nos avocats, donc disent La Voie est libre, demandent à la ministre de l'écologie de saisir l'inspection générale de l'environnement afin qu'elle analyse l'ampleur des dégâts et qu'un nouveau dossier d'autorisation environnementale soit demandé par le concessionnaire.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Un autre dossier qui est loin d'être bouclé, celui-là, il concerne le contournement ouest de Montpellier. C'était hier, le lundi 12 janvier, que le collectif Autrecom, c'est le nom du collectif d'opposants, organisait une conférence de presse pour dénoncer, là aussi, l'illégalité de l'autorisation environnementale qui doit permettre la réalisation donc, de ce fameux COM, le contournement ouest de Montpellier. Cette autorisation environnementale a été signée au mois d'octobre dernier, alors que les fouilles d'archéologie préventive commencent sur le chantier de ce tronçon qui relie Saint-Jean-de-Védas à Juvignac. Le collectif, qui lui plaide pour une alternative moins polluante, annonce donc le dépôt d'un nouveau recours. Une année 2026 qui commence donc fort pour ce collectif. C'est dans les colonnes du journal Le Point, avec un G à la fin, que vous pourrez trouver cet article. Le 7 janvier, les militants en faveur d'une alternative donc à ce contournement ouest de Montpellier ont déposé un nouveau recours juridique pour contester l'autorisation environnementale. Celle-ci doit permettre le début des travaux et elle a été signée, je vous disais, le 30 octobre dernier par le préfet de l'Hérault. Ce document confirme que c'est un projet autoroutier, car il fait mention d'une bande d'arrêt d'urgence en plus de la 2x2 voies. Et c'est sur cette qualification d'autoroute que va se jouer le recours. C'est ce qu'explique en tout cas Céline Scornavaca, la porte-parole du collectif Autrecom. Selon l'avocate, donc la porte-parole, cette réalisation ferait augmenter la pollution à l'ouest de la métropole de Montpellier si donc cette tronçon qui est pour une autoroute était construite. La population locale, dit-elle, a donc été dupée par la communication agressive de l'entreprise Vinci. Elle évoque par exemple un sondage dithyrambique publié sous forme de publi-reportage, c'était dans les colonnes de la Gazette de Montpellier, par Vinci donc. Selon le collectif Autrecom, cette autorisation environnementale signée par l'ancien préfet de l'Hérault François-Xavier Locke, qui est lui un fervent défenseur du projet, serait donc illégale. C'est par exemple Jean-Michel Hélary, qui fait partie de l'association SOS Les Environnements, qui explique. Pour justifier par dérogation de la destruction de l'environnement d'une espèce protégée, ce que fait cette autorisation environnementale, donc, il faut pouvoir prouver qu'il n'y a pas d'alternative possible. Or, dans l'étude environnementale du COM, il y a des variantes du projet sur ce tracé, mais pas sur les caractéristiques de l'équipement, notamment la vitesse autorisée pour les véhicules. Il explique par exemple que limiter cette vitesse à 70 km/h au lieu de 90 serait une alternative. Et d'ailleurs, ce point avait déjà été relevé par la commission d'enquête pendant la déclaration d'utilité publique qui avait eu lieu en 2020. Or, donc, toujours selon le collectif d'opposants, un document de 2023 rédigé par le ministère des Transports fait état d'une alternative possible, hein, qui est donc ignorée par l'autorisation environnementale. Nous allons donc demander à la justice de trancher sur ce point, explique Jean-Michel Hélary. Donc vous l'aurez vu, ça demande pas mal de connaissances techniques en termes de droit environnemental, hein, pour aller s'opposer à des géants comme Vinci. Ça ne fait pas peur visiblement aux opposants et aux adhérents de ce collectif Autrecom, ainsi Christine Rouault, qui elle fait partie de Vélocité, une autre association impliquée. Elle dénonce la faiblesse de l'étude d'impact concernant ce projet. Ce projet autorise la destruction d'espaces naturels et forestiers où vivent des espèces protégées, comme par exemple la loutre d'Europe ou la chevêche d'Athéna. Ça, c'est une chouette. Mais l'étude d'impact manque de mesures d'évitement et de compensation qui permettraient de limiter l'impact pour ces espèces. Le début 2026, je vous le disais, marque aussi le début des fouilles préventives sur le tracé, hein, des fouilles d'archéologie, avant un début du chantier prévu en 2027. Pour le collectif, ces travaux qui sont déjà donc considérés comme lourds, hein, des fouilles préventives, pourraient déjà être considérés comme une préparation du chantier lui-même, puisqu'ils placent de fait les riverains devant le fait accompli. D'ailleurs, apparemment, les riverains auraient eux aussi de leur côté déposé une plainte au pénal pour construction illégale sur un terrain qui n'avait pas non plus été prévu sur le tracé. On retrouve un petit peu les mêmes pratiques que du côté de l'autoroute A69. Du côté des arbres, c'est Gaspard Driot qui fait partie du GNSA, le Groupement National de Défense des Arbres. Il déplore de son côté l'abattage de nombreux arbres sur le tracé alors que les fouilles n'avaient pas encore commencé. C'est le seul dossier, dit-il, que l'on suit où on observe cela. Car même sur la 69, les arbres n'avaient pas été coupés avant les fouilles. Ces abattages d'arbres sont d'autant plus problématiques, selon lui et le GNSA, qu'ils sont réalisés en pleine période d'hibernation de plusieurs animaux, notamment celle des chauves-souris. Le collectif demande une transparence sur les diagnostics archéologiques afin que ceux-ci soient limités et que le contrôle effectif de ces fouilles soit réalisé par les services de l'État. D'ailleurs, les militants ont aussi rédigé des courriers à la préfète de l'Hérault, puisque maintenant c'est une nouvelle préfète qu'il y a pour l'Hérault, mais aussi à la DREAL, hein, qui est la Direction régionale de l'environnement, à l'aménagement et du logement, et enfin à la DRAC, le service régional d'archéologie. De la DRAC, qui est la Direction régionale des affaires culturelles. Ils aimeraient avoir une éventuelle convention qui pourrait autoriser l'entreprise Vinci à commencer le débroussaillage des arbres, mais pour l'instant, aucune réponse claire n'a été faite du côté de la DREAL. On est à 2 mois des élections municipales, hein, vous le savez. Donc les militants de ce collectif Autrecom entendent bien profiter de la période en interpellant les candidats aux élections sur Montpellier, Juvignac et Saint-Jean-de-Védas pour leur demander de se positionner sur ce projet routier. La porte-parole précise « Nous voulons voir s'ils peuvent être d'accord avec nous sur 2 points. Ne pas toucher à l'échangeur nord, car, dit-elle, c'est lui qui aurait l'impact environnemental le plus fort s'il y avait des travaux, parce qu'il faudrait construire un viaduc. Et 2e point, réduire la taille de la route en supprimant la bande d'arrêt d'urgence pour revenir à une 2x2 voies limitée à 70 km/h et non pas ce qui ressemble plus à une autoroute. Tout cela permettrait de générer moins de bruit, dit-elle, et de pollution. » Quant à Mickaël Delafosse, le maire actuel de Montpellier, pas encore officiellement candidat à sa réélection, il affirmait la semaine dernière dans une interview accordée à Hérault Tribune que ce projet se ferait. Cette affirmation est violente pour les opposants, hein, qui dénoncent, eux, de leur part, un déni de démocratie. On va rester sur les bords de ces 2x2 voies là, qu'on voit du côté de Montpellier et s'intéresser au sort des gens du voyage qui sont souvent justement relégués dans ces zones les moins reluisantes de la ville, isolés et exposés donc à des nuisances environnementales. Les équipements réservés aux gens du voyage dans l'Hérault reflètent plus de 20 ans d'inertie de la politique d'accueil. Ce sont des documents exclusifs qui sont révélés par le média Street Press et qui permettent donc de tenir cette affirmation. Entre 300 et 400 euros environ, c'est ce que payent chaque mois, par exemple, les résidents de l'aire d'accueil des gens du voyage à Cournon-Terral, dans l'Hérault, pour un morceau de terrain dont les travaux restent inachevés, malgré le fait qu'il est ouvert en 2023. Ça fait cher pour une aire aussi sommaire, déplore par exemple un des habitants, qui s'appelle Joseph et qui s'y est installé il y a quelques mois, là où est placée sa caravane, hein, avec sa famille, un mur en parpaing sans revêtement, délimite un très modeste coin cuisine, les toilettes, elles, sont en panne, le sol est inondé, faute d'un écoulement des eaux efficace. Et le plus grave, explique-t-il aux journalistes, c'est ce qu'il y a là-bas. Hein. Il monte un précipice d'une 10 mètres de profondeur, juste derrière la dalle en béton qui délimite la place de sa caravane. Il n'y a pas de barrière, dit-il, si un enfant tombe dedans, il meurt. Un petit exemple parmi d'autres, donc, dans ce reportage, où on voit que l'Hérault, ainsi que 82 autres départements français, est donc en infraction avec la loi Besson. C'est une loi qui est prévue pour justement obliger les départements à réserver des terrains aménagés pour accueillir les gens du voyage dans toutes les communes qui ont plus de 5000 habitants. Donc en théorie, le nombre et la localisation de ces équipements doivent être définis à travers des schémas départementaux. Ce sont des documents qui sont faits sur la politique d'accueil à l'échelle locale, et ces schémas doivent être renouvelés tous les 6 ans. Si on regarde l'Hérault, la révision du dernier plan, donc de celui-ci, qui était sur la période 2018-2024, eh bien, elle sera lancée seulement en ce début d'année 2026, hein, donc ça fait 2 années de trou, et il manque aujourd'hui environ 700 places sur le territoire. 5 des 11 intercommunalités inscrites d'ailleurs dans l'Hérault ne sont toujours pas à jour pour ce qui est de ces obligations. Street Press est donc parti explorer les aires d'accueil de l'Hérault. Ils ont analysé des nuisances environnementales auxquelles les gens du voyage sont exposés, et donc avec à l'appui des documents exclusifs et des témoignages d'anciens fonctionnaires. Pour ce qui est du schéma départemental de l'Hérault, celui actuellement en vigueur indique que la proximité des aires avec les services urbains doit être recherchée. Services urbains, entendez par exemple administration ou transport. Eh bien, ils ont fait des calculs, hein, et Street Press a calculé la distance des aires à leur mairie de rattachement. Eh bien, on est environ à 3,3 km en voiture et 37 minutes à pied. Sinon, la majorité des sites est aussi très proche des grands axes routiers, environ en moyenne 220 mètres, donc c'est vraiment des aires qu'on met derrière les glissières de sécurité. On peut citer l'aire de grand passage de Latte, par exemple, qui est jugée catastrophique, hein, à plusieurs reprises par les personnes qui ont été interviewées. Celle-ci, elle est carrément coincée entre l'autoroute A7 et l'autoroute A9. Quand la question des déchetteries qui revient régulièrement, elle se confirme. Hein, sur les 21 aires que compte le département de l'Hérault, 2 de celles-ci sont accolées à des déchetteries. On va citer la ville d'Agde et celle de Marseillan. Et du côté de Castries et de Pérols, elles sont à moins de 400 mètres de la déchetterie. L'aire de Frontignan, elle, si on parle des nuisances sonores, collée à un terrain de motocross. Hein, d'ailleurs, un terrain motocross qui est ouvert non-stop, sans coupure, le midi. Parmi d'autres sources de nuisances répétées, en plus des routes dont je vous ai parlé, l'aire de Grand Passage de Pérols, elle est à 150 mètres d'un karting. Et elle n'est séparée de l'aéroport que par la 4 voies. Ouais, J'imagine qu'on doit bien se reposer dans cette zone. Selon la préfecture de l'Hérault, en tout cas en novembre 2025, il y avait 392 places d'accueil réparties sur 11 aires permanentes. L'objectif du schéma est de 542 places normalement, donc il n'est rempli qu'à 72%. Et si on regarde les chiffres de janvier 2018, il y avait 326 places, on est passé à 542. Donc en 8 ans, seulement 66 nouvelles places ont été créées, ce qui fait très peu vu justement les obligations légales. Tout cela d'ailleurs, c'est sans compter sur la suppression de l'aire de Bionne qui a été rasée en juin 2025, donc les chiffres ne sont pas encore dedans, pour les besoins de la future rocade de Montpellier, ce qui a entraîné la suppression de 40 places supplémentaires. Dans l'Hérault, les prérogatives, le pouvoir de substitution du préfet, qui est prévu justement par la loi, si les équipements ne sont pas réalisés par une collectivité, ce pouvoir n'a jamais utilisé, c'est-à-dire que le préfet vienne se substituer à la métropole ou à la mairie. Contacté d'ailleurs le département, les a renvoyés vers la préfecture, qui elle n'a pas donné suite aux sollicitations des journalistes. Voilà, dans cet article, on peut retrouver aussi l'interview de Gaëlle Aloiseau, qui est anthropologue, qui a été médiatrice des gens du voyage dans l'Hérault pendant 10 ans, de 2004 à 2014. Et elle explique que la situation déplorable de l'offre du département découle d'un anti-dziganisme structurel dans ses administrations. Elle explique « J'ai témoigné d'une violence inouïe à l'égard des voyageurs pendant toute la durée de ma mission, au point, dit-elle, qu'il m'est arrivé plusieurs fois de craquer ». La prise en compte de la parole de ces habitants, justement, dans l'orientation des politiques d'accueil est pourtant censée être assurée par la présence de représentants associatifs au sein, justement, des commissions consultatives du département. Il y a une association qui s'appelle l'ANGVC, avec sa présidente Nelly Debar. Elle était présente au cours de la dernière réunion de la commission qui a eu lieu en septembre 2025. Et elle explique, donc ils ont fait remonter justement leur possible participation. Ils ont dit qu'ils étaient disponibles depuis des années pour les aider à construire des aires d'accueil qui correspondent aux besoins réels des voyageurs. Elle dit, il suffit de nous appeler et on leur aurait répondu. Plus il y a de gens en réunion, moins ça va vite. Sous-entendu, on n'a pas besoin de votre avis. Le cas de l'Hérault, si on reprend un petit peu la focale au niveau de l'État, enfin de la France entière, relève d'une forme de racisme environnemental. Ça, c'est ce qu'expliquait William Hacker, qui fait partie aussi de l'Association nationale des gens du voyage citoyen, la NGVC. Donc, il en est le délégué général. Il a aussi écrit un livre, justement, expliquant la proximité, notamment avec les déchetteries et les zones polluées en général en France. Il est juriste, par ailleurs, ce William Hacker, et il explique « Nous avons d'un côté une population qui, historiquement, a été appréhendée par le fait racial, et qui l'est encore aujourd'hui, on parle donc de racisme, et de l'autre, nous avons des espaces isolés et pollués qui sont créés spécifiquement pour cette population par les pouvoirs publics. » Et il conclut « Même si c'est une problématique difficile à aborder dans notre pays, en raison de sa tradition universaliste, les faits sont là, ce racisme se voit littéralement du ciel. »
Non mais n'importe quoi, non mais...
Et puisqu'on était dans les colonnes de Street Press, je vous rappelle que cette fin d'année a été chargée pour les journalistes. La moitié de la rédaction environ a un procès pour diffamation de la part principalement de figures de l'extrême droite. Ils ont donc 15 procès en diffamation aujourd'hui. Tout ça coûte cher, même s'ils risquent de les gagner parce que souvent les accusations sont très mal fondées. Mais en tout cas, vous pouvez les soutenir en vous abonnant par exemple aux médias ou alors en leur faisant un don sur leur page. Ce qui nous permet de passer à la rubrique suivante, justement, liberté de la presse, avec le journal L'Empaillé que nous avons reçu sur nos ondes il y a 2 mois maintenant, un journal régional avec pas mal de luttes sociales et de reportages aussi. Ils avaient un procès à Perpignan, c'était ce 8 janvier, la date avait été repoussée. Un procès intenté donc par la ville, par messieurs Alliot et Rouche, qui ne se sont même pas déplacés à l'audience. C'était le directeur de la police municipale de cette mairie Rassemblement National qui avait attaqué donc le journal L'Empaillé. Celui-ci l'avait en effet, dans un article, qualifié de caïd dans une enquête qui datait d'octobre 2023. Cette enquête, justement, racontait la politique d'extrême droite qui était menée à Perpignan, notamment par la police municipale, en révélant justement ses méthodes brutales et arbitraires avec ses 200 agents armés de flashball, certains portant des écussons au relent néo-nazi. Cette plainte relevait donc pour eux avant tout d'une procédure bâillon destinée à faire perdre du temps et de l'argent au journal L'Empaillé. Et donc, au cours de l'audience, qu'ils avaient bien préparée de leur côté, Il n'y a même pas eu le temps d'avoir de débat sur cette injure supposée, puisque l'instruction n'avait même pas respecté, par exemple, la notification de droit au silence quand le directeur de publication de l'employé avait été mis en examen. Donc une faille juridique, hein, un point de nullité, plaidé avec brio d'ailleurs par l'avocat de la défense. Cela a soulevé quelques gesticulations de la part de la procureure et de l'avocat de la mairie d'extrême droite, mais sans succès, puisque les juges ont décidé, suite à ce vice de forme, l'abandon des poursuites. C'est donc une victoire avant même l'examen du fond, ce qui a privé malgré tout les avocats et les défenseurs de l'employé d'une possibilité d'argumenter justement sur peut-être demander l'indemnisation de leurs frais de procédure. Ils auraient bien aimé se faire rembourser ces journées de travail avec les avocats. En tout cas, dans ce communiqué, il remercie les dizaines de personnes qui s'étaient déplacées, de Perpignan ou d'ailleurs, pour les soutenir devant le tribunal. Et il rappelle encore qu'il remercie le fonds Riposte, un fonds donc justement pour aider les médias à subvenir à tous ces procès qu'intente l'extrême droite. Un fonds qui a été créé récemment et qui a donc permis pour eux de prendre en charge une partie des frais. Plus que jamais, dit Lampaillé, nous continuerons à enquêter sur l'extrême droite et nous resterons le relais de toutes les luttes pour combattre ces gens dangereux, que ce soit dans les villes tenues par le RN, à l'Assemblée ou dans des groupuscules néofascistes éparpillés sur le territoire. Vive la presse libre, vive la résistance antifasciste. On va s'intéresser à la question de l'abattage des loups, qui est revenue bizarrement avec cette histoire de crise bovine, la crise agricole. En effet, en réponse à la mobilisation des agriculteurs, une mobilisation qui dénonce par exemple la gestion de la crise de la DNC, la dermatose bovine, ou la signature du traité de libre-échange, le Mercosur entre l'Europe et les pays d'Amérique du Sud, eh bien, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a aligné vendredi 9 janvier tout un paquet de mesures qui représente selon elle 300 millions d'euros de crédits gouvernementaux, donc des mesures pour calmer un peu la mobilisation agricole. Et parmi ces mesures, la ministre prévoit d'augmenter de 10% le nombre des loups que l'on peut tuer. Ça fait 22 animaux de plus par an. Cette hausse était réclamée par certaines organisations d'éleveurs. Elle est jugée d'ailleurs encore insuffisante par la Fédération des éleveurs ovins de la Drôme. Cette fédération affirme que le nombre d'animaux tués lors d'attaques de loups a augmenté de 20% cette dernière année. Pour France Nature Environnement, au contraire, on estime que le gouvernement s'assoit totalement sur le droit qui oblige en théorie les États à protéger le loup. Dans les quotas actuels, explique France Nature Environnement, la population avait plus de 50% de régressés, explique-t-il, avec les chiffres donc d'abattage qui sont déjà en vigueur. Cette façon de gérer le loup par l'abattage est une aberration. Quand vous tirez sur une meute et que vous tuez les dominants, par exemple, la meute explose. Les jeunes partent à la recherche d'un territoire et leur sexualité n'est plus réprimée par le couple dominant. Donc voilà un peu d'éthologie, de biologie qui vient mettre à mal cette stratégie d'abattage dès qu'il y a une attaque. C'est ce qu'expliquait Pierre Jouventin, un chercheur au CNRS spécialiste du loup, au mois d'août dans les colonnes de Reporters. C'est ainsi pour Reporter que la chasse au loup contribue à son expansion géographique et que, faute de meute pour réguler ses comportements, cela entraîne davantage d'attaques sur le bétail.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
On termine ces nouvelles du monde avec une enquête qui s'intéresse à l'impact des réseaux sociaux sur la santé des adolescents. C'est l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Environnementale et Sanitaire, qui vient de publier un gros dossier là-dessus, où on apprend, sans grande surprise, mais c'est chiffré, que l'usage des réseaux sociaux nuit à la santé mentale des adolescents, et en particulier à celle des filles. Cette enquête arrive et est publiée au moment où plusieurs textes, justement, visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, sont en préparation. S'ils ne sont pas la cause unique de la dégradation de la santé mentale des ados, les effets négatifs de ces réseaux sociaux, qui sont maintenant inscrits, proscrits aux moins de 16 ans en Australie, ces effets sont nombreux et documentés, affirme donc l'Agence sanitaire française dans son avis qui a été publié aujourd'hui, suite à 5 ans de travaux de la part d'un comité d'experts pluridisciplinaires. comme l'avait préconisé en septembre la commission d'enquête parlementaire sur TikTok, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans fait actuellement l'objet de deux textes de loi. L'un initié par le président Macron, l'autre par le groupe Renaissance de Gabriel Attal et d'autres au Sénat. L'agence l'ANSES préconise d'agir à la source pour que les mineurs n'accèdent qu'à des réseaux sociaux conçus et paramétrés pour protéger leur santé. Cela impliquerait que les plateformes modifient leurs algorithmes de personnalisation de contenu, les techniques d'interface persuasive et les paramétrages par défaut. Ça, c'est pour les détails techniques, explique l'agence, dont les travaux éclairent les décisions publiques. L'étude donne des arguments scientifiques au débat sur les réseaux sociaux des dernières années. Elle est basée sur 1000 études qui ont été décortiquées. C'est une méta-étude. Et tout cela documente les effets sur la santé, explique la coordinatrice de cette expertise qui s'appelle Olivia Roth Delgado, lors d'une conférence de presse qui a été donnée justement pour annoncer la publication du rapport. L'enjeu pour l'ANSES est de créer un cadre de gouvernance à la hauteur des enjeux, à savoir il faudrait que le gouvernement instaure des mesures réglementaires et des actions de contrôle robustes pour protéger la santé des mineurs. Or, tout cela incombe aux plateformes. L'État ne peut pas le faire à leur place. Ces plateformes doivent donc déployer des systèmes fiables de vérification de l'âge et de recueil du consentement parental. Tout cela pour respecter le DSA, hein, c'est la réglementation européenne sur les services numériques, et aussi le RGPD, qui est lui le règlement général sur la protection des données. Vous savez, ces fameux trucs qu'on accepte tout le temps dès qu'on veut accéder sur des sites. Le RGPD, justement, prévoit une inscription possible à partir de 13 ans avec une validation parentale entre 13 et 15 ans. Pour l'ANSES, donc l'agence sanitaire, les systèmes de captation de l'attention des plateformes, donc le fait de rendre ça addictif, exploitent des vulnérabilités qui sont propres aux adolescents, à savoir la tendance à prendre des risques. Quand on est ado, on veut un peu se tester, à la comparaison sociale et donc à l'importance du jugement des autres adolescents. Cela alors que justement, à leur âge, ils n'ont pas les capacités de régulation émotionnelle et comportementale que peuvent avoir des adultes. Et encore, ça serait à quantifier, ça, à vérifier ça. Les réseaux sociaux sont consultés via un smartphone. Hein. La moitié des 12-17 ans y passent 2 à 5 heures par jour. Et ils sont donc une caisse de résonance inédite qui va renforcer les stéréotypes, mettant en avant des comportements à risque et, vous le savez aussi, favorisant fortement le cyberharcèlement. Tout ça eh bien, est fait parce que les plateformes veulent gagner de l'argent. Hein. Ça découle d'un modèle économique maximisant le temps d'utilisation à des fins lucratives et de stratégies de captation de l'attention, à savoir notamment le doom scrolling, hein, le fait de pouvoir faire défiler infiniment des contenus avec des contenus ultra personnalisés. Tout cela va inciter les adolescents à rester sur les réseaux sociaux au détriment de leur sommeil ou de leur vie sociale in real life, j'ai envie d'ajouter. Cela, la question du sommeil peut introduire de la somnolence, de l'irritabilité, de la tristesse et favorisant des symptômes dépressifs, d'ailleurs rappelle aussi l'agence sanitaire. Et si on regarde les contenus véhiculés par ces réseaux sociaux, eh bien ceux-ci véhiculent des idéaux normatifs inatteignables, hein, des corps parfaits qui sont notamment intériorisés par les filles, puisqu'on, je vous le disais en introduction, la santé mentale c'est des adolescents est assez justement fragile pour les filles avec la question des réseaux sociaux. On peut citer le fait de voir des images retouchées qui peuvent engendrer une dévalorisation de soi. Hein. Le corps réel semble beaucoup moins bien que ces corps tout lisses et un peu en mode Disney qu'on peut voir sur les écrans avec les filtres. Tout cela est un terrain fertile pour des symptômes dépressifs et les troubles alimentaires. Enfin, les algorithmes de personnalisation des contenus exposent certains mineurs à des publications qui pourraient par exemple inciter au suicide, à l'automutilation ou à des comportements à risque. Avec tous ces défis dangereux et débiles, ou alors ce qui est à la consommation de drogue, d'alcool, de tabac, cannabis, hein, des challenges, tout ça. Et évidemment aussi d'inciter à des cyberviolences. Tout ça étant amplifié par l'anonymat, semble-t-il, et la facilité de diffusion de ces menaces. On ne se rend pas forcément compte qu'on fait du harcèlement quand on débute, par exemple, un petit groupe WhatsApp avec d'autres ados pour se moquer de quelqu'un. Les réseaux sociaux sont plus utilisés par les filles que les garçons, d'ailleurs, aussi. Et celles-ci sont plus objets de pression sociale liée aux stéréotypes de genre, plus cyberharcelées aussi. Les filles sont donc plus impactées par les réseaux sociaux, constate l'ANSES, à l'instar aussi, d'ailleurs, des personnes LGBTQIA+, ou des jeunes qui ont déjà des troubles psychiatriques avérés. Pour l'agence, donc, les contenus délétères pour la santé doivent être interdits. Il liste les contenus violents, pornographiques, haineux, harcèlement, conduite à risque, jeu d'argent, régime alimentaire extrême. Il y a urgence donc, alors que l'IA redouble le danger avec la perte de la pensée critique, la génération de stéréotypes ou les contenus dangereux. Voilà, un long article pour cette expertise de l'ANSES. On peut douter des effets réels des lois là-dessus, mais en tout cas, c'est toujours bien que les adultes autour, eux, soient vigilants et conscients de tous les enjeux. Ça aura au moins le mérite d'éclairer certains des ressorts, justement, qui peuvent se passer à travers les réseaux sociaux. Donc, en tant que parents, si vous fréquentez des jeunes, eh bien, ouvrez l'œil. Ça sera déjà ça de gagner pour eux.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte, chers amis. On se retrouve jeudi pour d'autres nouvelles du monde. Bah, d'ici là, restez couverts. Hein. Il fait froid, il fait pas beau, il pleut. On n'a qu'à viser sous la couette. Allez, portez-vous bien. Bonne continuation sur les ondes de Radio Escapade.
Monsieur, des informations, il y en a plein. Hein. Par exemple, il y en a plein. Hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas. Interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.